Voilà au milieu de notre louange. Bonjour à tous vous qui êtes là ce matin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous, à qui il a donné aussi la grâce d'être là. Donc, sans lui, nous n'allons pas être là. Comme nous avons chanté ces plusieurs chants, et puis ces chants qui disent quel bonheur de marcher avec lui. C'est vrai, c'est un bonheur de marcher avec Dieu. Je prends un exemple simple. Quand un couple se marie, les deux sont dans le bonheur de marcher ensemble, n'est-ce pas? Et quand ils ont encore un enfant, l'enfant est au milieu, papa à gauche ou à droite, l'enfant au milieu, vous voyez, ça exalte la joie du couple. Pour nous, bien-aimés, c'est aussi ce bonheur de marcher avec lui, de marcher avec Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons un tel Sauveur qui est merveilleux. Nous avons celui qui nous aime, qui nous conduit. Nous avons celui qui pense à nous, qui nous comprend, qui nous accompagne et qui est toujours prêt à venir à notre secours. C'est vrai que c'est un bonheur de marcher avec lui, d'avoir un tel Sauveur, d'avoir un merveilleux ami qui nous aime tant. C'est vrai, c'est une grâce de Dieu pour moi d'être avec vous ce matin. Ce n'est pas si facile, je reprends tout doucement. Encore une fois, merci beaucoup de vos soutiens, de vos prières, de vos messages, etc. Moi et ma maison, nous vous sommes vraiment reconnaissants. C'est aussi un bonheur d'avoir une famille spirituelle. C'est aussi une joie d'être accompagné par cette famille spirituelle, n'est-ce pas? C'est une grâce et nous bénissons notre Dieu pour ça. Alors, je pense que peut-être je ne vais pas saluer ceux qui sont sur Zoom. Je ne sais pas s'il y a nos bien-aimés qui sont connectés. Qui est là aussi que la paix du Seigneur, nos bien-aimés qui sont sur le Zoom et ceux qui peuvent nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques diverses exhortations. Donc, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Bien-aimés, Paul a écrit plusieurs épîtres, n'est-ce pas? Et à chaque lettre de Paul, avait un objectif bien déterminé, à savoir comment répondre aux besoins spirituels de chacune des églises que Dieu lui a fait grâce de pouvoir fonder. Donc, et puis, de les amener à une plus grande maturité spirituelle. Ça, c'était le vœu suprême de l'apôtre Paul. Une mission terrible, difficile que Christ lui a confiée. Fonder les églises, amener ces églises à la maturité. Les visiter, ne pas les renoncer, les aimer, etc. Au chapitre 4, que nous allons lire, de l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul s'adresse à qui ici? À une église qu'il aime beaucoup. Une église qui est sa couronne, une église qui est sa joie. L'église de Philippe était une petite église comme la nôtre ici. Elle n'était pas si grande, hein? Elle était petite. Petite vis-à-vis de tout ce qui les entourait, les Romains, nous les savons, envahissaient tous les pays, etc., etc. C'était une petite église. Mais Paul disait de cette église qu'elle était sa couronne et sa joie à cause de la maturité spirituelle que cette église avait acquise grâce à Dieu. Une petite église, mais qui était grande dans le cœur de Christ. Elle était grande dans le cœur de Christ parce qu'elle avait fait beaucoup, beaucoup de progrès spirituels. Donc, grâce aux enseignements reçus de l'apôtre Paul et de tout ce que l'apôtre Paul a laissé comme ancien, etc., cette église a reçu beaucoup d'enseignements et elle a beaucoup grandi en maturité spirituelle. Mais au chapitre 2 de cette épître de Paul, aux Philippiens, il y a un incident qui est survenu. quand nous voyons bien. Il dit, j'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans les seigneurs. Il y a cet incident qui vient paraffer donc cette partie que je veux vous partager ce matin. Mais en lisant le verset 2 de cet épître, nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas précisé la nature de cet incident. Qu'est-ce qu'il y avait entre Évodie et Saint-Tiche? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il dit seulement, je vous exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Il les supplie, l'apôtre Paul. Parce que le cœur de l'apôtre Paul, c'est d'amener l'Église à la maturité. L'apôtre Paul ne voulait pas regarder ce qu'il y avait les indifférents entre tel frère, telle sœur, etc., etc. Lui, c'était vraiment que amener l'Église à aller de l'avant. Donc, il n'a pas précisé la nature de cet incident. Par contre, il est supplié de se mettre d'accord et d'avoir la même pensée. Pour Paul, bien aimé, l'unité de l'Église, donc qui est le corps de Christ, donc reste son vœu suprême. Toutes les églises qu'il a fondées, nous voyons bien comment l'apôtre Paul s'adressait dans les salutations et comment est-ce qu'il terminait ses lettres, donc en plaçant toujours l'amour de Christ au milieu, au sein des églises. C'est pourquoi l'apôtre Paul tenait à ce que ces chrétiens de Philippe reflètent davantage ses désirs de progrès en demeurant, comme il y a une sœur qui l'a dit, en demeurant dans leur niveau spirituel acquis. Nous allons lire le verset 1, qui va nous servir de tremplin pour ce message. Le verset 1 dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Un court verset. Vous qui êtes ma joie, vous qui êtes ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur. Que constatons-nous ici dans ces versets? Qu'est-ce que ça peut nous révéler? Nous constatons que les relations de l'apôtre Paul avec l'église de Corinthe, ces relations étaient grandes, affectives, merveilleuses, profondes et voire même constructives. Parce qu'il parle de la maturité spirituelle, donc vraiment constructive. Pourquoi? Simplement parce qu'elles étaient animées, bien-aimées et entretenues par l'amour de Christ qui agissait dans cette communauté, dans cette église. Et cette amitié profonde et cette maturité profonde, mes amis, donc qui les soudait, donc Paul et l'église de Corinthe, de Philippe, et non pas seulement de Philippe, de Thessalonique, d'Éphèse, etc., hein, nous voyons que cela amenait le peuple de Dieu à avoir un respect mutuel. Et cela aussi a créé quoi? A créé dans le cœur de Paul et celui des chrétiens de Philippe, bien-aimés, ça a créé un désir profond d'être ensemble, de se voir, de se revoir. Ceci, nous pouvons décrire comme un bel exemple d'amour et d'unité de Paul avec toutes ces églises que Dieu a permis qu'ils puissent se fonder au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, qui sommes rassemblés dans ces lieux ce matin, si petits qu'ils soient comme l'église de Philippe, comment réagissons-nous de ces bel exemples d'unité d'amour? Est-ce que sommes-nous dans la joie de nous revoir ce matin? Est-ce que je suis dans la joie de voir ma petite Sarah? Lisa était dans la joie de voir le frère Henri, etc. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous voir, de nous revoir ce matin? Ça, c'est une question profonde, n'est-ce pas? Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des visiteurs ce matin, sommes-nous dans la joie de voir ceux qui nous visitent ce matin malgré la pandémie, malgré ces situations difficiles? Nous sommes dans la joie de voir à la fin du culte s'il y a quelqu'un ou une personne qui nous visite. Sommes-nous dans la joie de la voir? Sommes-nous unis? Avons-nous les mêmes sentiments une même âme, une même pensée. Dans quel état d'esprit sommes-nous rentrés quand nous avons affranchi la porte, la petite porte est là? Je rentre dans la maison du Seigneur. Dans quel état d'esprit étais-je? Dans quel état d'esprit suis-je maintenant? Peuple de Dieu, quand Paul s'exprime et le vit, vous le voyez bien dans ses lettres, dans ses épîtres, une question qui se pose en tant qu'Église unie dans l'amour de Christ. Sommes-nous la couronne? Sommes-nous encore une fois la joie de celui que Christ a choisi pour nous conduire en ces lieux? Qui nous conduit en ces lieux? Le berger, comment il s'appelle? Pourriez-vous me donner le nom? Oui, le grand berger. J'ai parlé du berger dans le petit. Jésus, c'est le grand berger. Très bien. Mais c'est lui qui nous conduit là, là. Comment il s'appelle? Le berger qui nous conduit. Un berger, c'est qui? Le pasteur. Alors, maintenant, qui est le pasteur qui nous conduit? Comment il s'appelle? Serge Oulaï. Et voilà que, bien-aimé, vous hésitez. Je ne sais pas si j'étais clair. Vous étiez trop loin. Quand j'ai dit berger, oui, c'est vrai, vous avez dit Jésus-Christ, c'est très bien, c'est le grand berger. Mais je parle du petit berger. Le petit berger, qui il est? C'est Serge Oulaï. C'est celui dont Christ a choisi pour nous conduire, nous diriger. C'est un pasteur, c'est un frère, c'est un enseignant, comme l'était aussi l'apôtre Paul. Frère, aimé, enseignant, etc., docteur comme Paul, etc. Il a amené cette église à maturité spirituelle. C'est ce que fait le berger aujourd'hui. C'est ce que fait aujourd'hui notre frère Serge. Le pasteur, il nous conduit dans la joie que Dieu lui a donnée. Il a donné un peuple à qui il doit veiller jour et nuit avec tous ceux qui l'entourent aussi. Est-ce que nous sommes la joie? Nous sommes la couronne de cet homme, de ce frère, et c'est lui que Dieu a choisi. L'apôtre Paul, lui, s'exprimait, il dit, vous êtes, est-ce que le pasteur Serge peut le dire, vous êtes, nous sommes. Bien-aimés, est-ce que le frère Eric a dit tout à l'heure que si nous pouvons compter tout ce que Dieu a fait pour nous, la sœur aussi a parlé de tous les bienfaits de la semaine, de ce que Dieu a fait pour nous. Posons-nous la question, est-ce que après le culte, suis-je une bénédiction pour mon frère, pour ma sœur, de ce que je vais lui partager? Ce que Dieu a fait pour moi, suis-je une bénédiction? À ces différentes questions, ces exhortations, je ne pourrais répondre à votre place. Je ne peux pas. Seul le cœur de chacun devrait répondre à Dieu et à Christ notre Seigneur. Paul, lui, il avait ressenti cet amour. Et nous, mes bien-aimés, ressentons-nous cet amour parmi nous? C'est vrai que vous allez me dire, mais on nous rabâche tous les jours de l'amour, mais c'est le centre de l'Évangile. Dieu a tant aimé. C'est le centre, l'amour, 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 encore une fois, l'amour. Oui, est-ce que nous ressentons la même chose comme l'apôtre Paul? Est-ce que le berger Serge Oulaï sent aussi ce même amour comme Paul l'a ressenti vis-à-vis de ses frères, de Philippe, et etc. Pour aller de l'avant, bien-aimés, progresser les chrétiens de Philippe comme nous aujourd'hui. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'approfondir nos relations, les entretenir et de vivre mutuellement dans des relations spirituelles vraies et sincères. Vraies et sincères. Et cela nous permettra, mes bien-aimés, d'aller de l'avant, de nous exhorter mutuellement, d'entretenir des choses constructives et d'avoir une même vision pour l'avancement de l'Église. Souvent, j'entends les prières, ou nous entendons des prières, « Seigneur, que ton règne vienne. » Très bien, Le règne de Dieu est au milieu de l'Église, au milieu de nous. Que ta volonté soit faite. Nous qui sommes là pour faire régner la volonté de Dieu, pour faire progresser ce que nous entendons. Comment faisons-nous? Quel est notre progrès? Les chrétiens de Philippe étaient dans ces progrès. Et nous, aujourd'hui, l'Église de Créteil, je ne veux pas aujourd'hui dire n'importe quoi que ce soit, mais ce sont seulement des exhortations, afin que chacun et chacune puisse se mettre en place et voir quelle est ma place. Pas au sein de l'Église de Créteil, mais pour faire avancer le règne du Seigneur dans ce monde qui est assombri par le péché et la mort. Oui, devons nous exhorter pour progresser, d'entretenir des choses constructives, avoir la même vision pour l'avancement de l'Église, au lieu d'avoir des pensées stériles, des pensées destructives. N'oublions pas que toutes nos conversations sont écoutées. Toutes nos conversations. Aujourd'hui, on parle de service des renseignements nationaux. Oui, l'État, tout ça, il a des écouteurs partout. Hein. Donc, nous sommes fichés presque partout. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu est au-dessus. Donc, nous pouvons aussi dire que nos conversations, bien-aimés, sont écoutées. Nos conversations sont sondées. Nos conversations sont jugées par celui qui règne en nous. Nos conversations sont écoutées par Dieu. Et à la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver? Chacun devait rendre compte de sa vie devant le roi des rois. Vous savez, nous sommes des passagers sur cette terre. Quand je parle d'abord, premier aspect du passage, ceux qui nous visitent, qui partent, leur famille, qui s'éteint, etc. Ceux qui viennent, qui partent. Les autres, ceux qui arrivent. L'autre départ, c'est le départ de quitter définitivement ce monde. Aller rejoindre les seigneurs en attendant les jours où Dieu donc viendra pour nous donner sa gloire, être avec nous dans la félicité éternelle. Nous allons tous quitter ce monde. Ça, c'est le deuxième. Donc, notre départ. Nous irons. Et de là, à la fin du temps, pour chacun de nous, nous rendrons compte à Dieu de ce que nous avons fait. Alors, n'oublions pas, nos conversations sont écoutées. Il y a un ange qui est placé spécialement, ce que j'ai lu, qu'il est là pour récolter tout. Tout. Oui. Restons donc vigilants. Faisons attention de qui sortent de nos bouches, bien-aimés. Faisons attention, n'entretenons pas des conversations calomnieuses. Éloignons-nous de tout cela. Ne passons pas notre temps à nous critiquer les uns et les autres, à juger à tort tel frère, telle sœur, tel enfant. On n'a pas le droit de juger. Oui, c'est du dehors, mais c'est du dedans, nous avons le droit. Mais comment nous devons le faire? Dans l'amour qui vient de Dieu, que Dieu nous donne. Je peux dire à mon frère ou à ma sœur que voilà, ce chemin n'est pas bon, attention. Mais ce jugement dont on parle ici, c'est un jugement, un mauvais jugement. Un jugement qui fait défaut, un jugement qui condamne quelqu'un. Qui suis-je pour condamner quelqu'un? Je n'ai pas les droits. Donc nous n'avons pas aujourd'hui à juger à tort et à travers tel frère, telle sœur. Donc que tel frère, c'est un élément négatif, ou telle sœur au sein de l'Église, je ne l'apprécie pas. Je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, bien-aimés, de faire quoi? De demeurer ferme dans le Seigneur. Demeurer ferme dans le Seigneur. Quels que soient nos différents bien-aimés, Dieu nous a créés différemment. Nous ne sommes pas pareils. Un homme, une femme dans un couple ne sont pas pareils. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Un homme avec une femme dans le couple, avec les enfants, chaque enfant a son comportement. Ce n'est pas la même chose. Et dans la grande famille des enfants de Dieu, nous sommes des enfants devant notre Père, n'est-ce pas? Nous sommes différents. Les uns et les autres. Mais le message commun, c'est que nous devons demeurer ferme dans le Seigneur. Ne suivons pas l'exemple de Vaudy et de Saint-Tiche, que l'apôtre Paul a essayé de corriger d'une façon, d'une sagesse qui vient de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, à qui devons-nous nous attacher? Parce que le verbe demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est s'attacher. Je demeure ferme, je m'attache fermement. Fermement. Pour ne pas tomber. Donc, je veux m'attacher en tant qu'enfant de Dieu à qui? À Jésus-Christ. À Christ est notre Seigneur. À Christ est notre force. À Christ est notre appui. Nous devons tous nous attacher à lui. Quand le Seigneur nous dit que tout pouvoir lui a été donné, dans les ciels, sur la terre, oui, tout pouvoir lui a été donné. À qui irions-nous, bien-aimés? Attachons-nous à Christ, le vrai cep, le cep de la vie. Car Christ est souverainement élevé au-dessus de tout, bien-aimés, au-dessus de nos indifférents, au-dessus de ce que nous sommes. Je suis ivoirien, congolais, ceci, cela, français, mais au-dessus de tout, là, Christ est élevé. Au niveau de nos inquiétudes, comme la sœur a dit, Dieu connaît tout. Dieu est si bon, nous avons chanté. Il prend soin de nous. Au-dessus de nos inquiétudes, Dieu est au-dessus de tout, bien-aimé. Il est aussi au-dessus de nos critiques, parce qu'il nous écoute. Il est au-dessus de nos critiques, de nos épreuves. Ah, vous savez, les épreuves de la vie, quand ça arrive, ça frappe. Parfois, c'est dur, n'est-ce pas? C'est dur. Mais qui nous relève, qui nous restaure, c'est Christ. Si nous n'attachons pas à lui, nous allons tomber. Nous allons tomber. Attachons-nous, demeurons fermes dans le Seigneur, dans le Christ Jésus, notre appui et notre force. Alléluia. Persévérons dans son amour, l'amour de Christ, comme l'a dit aussi dans la cité dans la prière, une sœur. L'amour de Christ ne tarit jamais. Cet amour, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, qui donne son fruit, à quel moment? À sa saison. Et dont le feuillage, bien-aimé, ne se flétrit point. Jamais. Jamais. Nous aussi, au travers de cette parole, comment devons-nous être? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous aussi, nous devons plonger nos racines spirituelles dans ce terrain fertile. Mais quel est ce terrain fertile? C'est l'amour de Christ, simplement. Donc si aujourd'hui je prends toute ma vie, je dis « Seigneur, je te donne ma vie. Je me plonge dans ton amour. Je vais vivre ton amour. Et je me tiendrai fermement à toi. » Et Christ soutiendra, il appuiera, il conduira. Parce qu'il est le vrai cep, il est la lumière, il est le chemin. Amen. Donc, plongeons nos racines, bien-aimés. Notre vie, toute notre vie sur ce terrain qui ne fléchit jamais. Et nous allons toujours être dans la joie. C'est pourquoi nous avons chanté « Quel bonheur de le connaître !» Quel bonheur d'avoir un tel sauveur! Quel bonheur de marcher avec lui! Il conduira tous mes pas! Oui, c'est Christ qui le fait. Oui, c'est lui. Mais il nous a laissé aussi encore une fois un commandement de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés, comme lui, il nous aime et il nous aimera éternellement. Son amour ne change pas envers nous. Donc son amour est toujours intact, sincère et vrai. Oui, nous avons reçu ce commandement de nous aimer les uns et les autres. Alors, arrêtons parfois de nous invectiver. Éloignons-nous des invectives, les uns et les autres. Comme nous pouvons le constater en suivant les informations partout, au travail, nous attendons que ça. Cet esprit du monde qui saisit l'esprit du diable, qui est là, qui saisit le monde. Et nous sommes dans le monde, bien que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous entendons, nous constatons toutes ces choses-là. Donc, et cet esprit mauvais, bien-aimé, restons vigilants, parce que cet esprit est là seulement pour nous séparer du Seigneur, pour saper notre foi, pour nous décourager, pour nous empêcher d'aller de l'avant, nous déstabiliser spirituellement. C'est ça ce que nous pouvons entendre par les uns et les autres. Si votre Dieu était bon, pourquoi il a fait ceci? Qu'est-ce que nous pouvons entendre de Dieu, des accusations, de l'être suprême qui est sans péché, le Dieu trois fois saint? Et cet esprit qui saisit le monde aujourd'hui, c'est un esprit qui vient de l'enfer, c'est diabolique. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés. Donc cet esprit déstabilisateur, donc Dieu nous aide à discerner cela et à nous éloigner de cet esprit mauvais. Et tout cela, Satan veut aussi, en tant qu'Église, donc détruire notre communion fraternelle. Nous détruire, c'est pourquoi il veut rentrer d'une façon pernicieuse, il rentre dedans, il commence à dire à toi, tu dis ça à ta sœur, à ton frère, etc. Tout ça, c'est pour saper, pour détruire notre communion fraternelle. Demeurons fermes dans le Seigneur. Et nous verrons des progrès, que des progrès. Pour cela, ayons le courage et la fermeté de réfuter les faussetés. De les refuter, de les rejeter. Parce que Dieu nous donne quand même sa parole. À la lumière de l'évangile de Christ, et Dieu nous parle tous les jours. Il nous parle. Donc, rejetons tout cela. Si un enfant de Dieu veut porter des fruits dignes de repentance, faire des progrès spirituels, qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin. Ce chemin, c'est s'attacher à Christ. On ne peut pas faire des progrès sans être attaché à Christ. Paul a dit « Demeurez fermes dans le Seigneur ». Donc, attachons-nous au Seigneur. Si nous voulons faire des progrès comme l'église de Philippe, de Thessalonique, d'Éphèse, etc., chacune dans nos vies personnelles au quotidien, demeurons fermes, mes amis, dans le Seigneur. Obéissons à ses commandements. Restons obéissants, comme les enfants obéissants au Seigneur. Alors, le voulons-nous? À chacun de répondre. Job, si vous voulez, Sarah, pardon. Job 23, 11 à 12. Qu'est-ce que nous lisons? Job a dit ceci. « Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Job, nous connaissons l'histoire. Un homme intègre, dans les difficultés des épreuves énormes, il est resté attaché à Dieu. Et nous avons vu, nous connaissons tous la suite. Peuple de Dieu, sommes-nous des chrétiens obéissants ou des chrétiens rebelles? À chacun de répondre. À chacun de répondre. Job était assuré de sa consécration, de sa voix, la voix des hommes intègres. Job était dans cette voie. Le sommes-nous? Voulons-nous l'imiter? Il n'y a pas que Job, il y a tant des exemples que la Bible nous donne. Voulons-nous imiter ces exemples parfaits? Bien que c'était des hommes comme nous, avec leurs péchés. Est-ce que nos racines sont-elles ancrées en Christ? Si je dois m'attacher à quelqu'un ou à quelque chose, il faut que celui ou celle à qui je vais m'attacher, ses racines, soient solides. Est-ce que moi, aujourd'hui, mes racines spirituelles sont-elles ancrées en Christ qui est le fondement de ma foi? Ces fondements inébranlables, solides, fermes. Encore une fois, attachons-nous. Demeurer en Christ, c'est-à-dire attachons-nous à lui. Obéir à ses commandements, l'aimer, etc. Pour qu'il y ait des progrès de tout en chacun, dans l'Église, dans cette communauté que nous formons, il faut préserver l'unité. L'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église. L'Église est le corps de Christ. Christ est le chef de l'Église. C'est à lui que nous devons nous attacher. Donc nous devons préserver, mes bien-aimés, cette unité progressive. Nous devons la garder, la chérir. Cette unité nous aidera à vivre d'une manière digne de la vocation, bien-aimée, que Dieu nous a adressée. Restons unis dans un même esprit, combattant d'une même foi, la foi qui sauve. Et pour y arriver, il y a des conditions à respecter. D'abord, je voulais dire, je ne vais pas détailler, je cite seulement, les chrétiens doivent rejeter tout fardeau, tout mal. Tout mal, nous devons, pour arriver à cette unité, pour l'Église progresser dans la paix du Seigneur, dans l'amour de Christ, nous devons bien aimer rejeter tout fardeau, tout mal nous devons rejeter. Je ne veux pas de ça, je le refuse au nom de Jésus. Christ n'est pas celui qui nous donne la force de résister à quelque chose. Il est celui-là, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous l'aimons. Deuxième point, savoir se pardonner mutuellement. Et accorder le pardon à qui nous le demande. Vous savez, il y a des personnes qui, par exemple, pardonne-moi, alors celui-là, jamais je le pardonnerai. Je ne peux pas oublier. Mais pour progresser, pour préserver l'unité dans l'Église, qui est le corps de Christ, nous devons savoir pardonner mutuellement. Donner le pardon à qui, ça soit un inconverti, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui te demande pardon, pardonne. Pardonne. Dieu nous a pardonné. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Si nous faisons valoir notre égocentrisme, notre orgueil, ce vice caché qui détruit l'Église, qui détruit l'homme bien-aimé, si nous faisons valoir ça au sein de l'Église, dans nos familles respectives, au travail même, alors est-ce que je suis attaché au cercle? Qui est donc Christ pour moi? Qui est donc Christ pour moi? Vous savez, les égaux, c'est quoi supérieur aux autres? Moi, je connais tout. Même si moi, aujourd'hui, je vous exhorte sur ça, je ne suis pas celui qui connaît tout, mes bien-aimés. Vous avez aussi quelque chose à m'apprendre jusqu'à la fin de ma vie. Même celui ou celle qui vient de se convertir m'apprendra quelque chose. Et je peux toujours témoigner pour notre fille Déborah, m'apprenait des choses. Elle était jeune, jeune dans la foi, mais elle était grande spirituellement. Elle m'apprenait des choses et nous apprenait des choses. Alors, c'est bel exemple. Je peux aussi témoigner aujourd'hui que je ne peux pas aujourd'hui m'enorgueillir. C'est impossible, c'est un péché devant l'Éternel. Donc, je me fais petit devant vous. Je me fais petit devant celui qui vient de se convertir, même aujourd'hui. Je me fais et je me ferai toujours petit. Parce que je ne connais pas tout et je ne connaîtrai pas tout. Donc, mon ego à la poubelle. Je ne le veux pas. Je refuse. Au nom de Jésus, ma sœur. Philippiens 3, verset 15. Nous approchons à la fin. Donc, Philippiens 3, verset 15. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Dieu vous éclairera. Mais c'est la partie A du verset qui nous intéresse. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Qui sont les hommes faits? Qui sont-ils que l'apôtre Paul fait allusion ici des hommes faits? Comme je viens de le dire, nous savons tous que tous les chrétiens ne peuvent pas être parfaits. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être parfaits. Nous tendons vers la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Dans ce monde assombri par tout ce qui est mauvais, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous pouvons devenir des hommes parfaits. Des hommes faits. Nous pouvons les devenir. Mais nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons les devenir. Comment? L'homme fait, nous pouvons aussi l'appeler un homme mûr spirituellement, c'est aussi un homme fait. Cet homme mûr, cet homme fait, c'est celui qui oublie ce qui est en arrière. Il oublie tout ce qui est en arrière et se lance vers ce qui est en avant, comme l'apôtre Paul sera au verset 13. Paul dit ceci. Donc, 4, 13. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Et puis, de l'autre côté, il dit, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Donc, là, c'est Philippiens 3, verset 13. Il peut tout par celui qui le fortifie, au chapitre 4, 13. Et Philippiens 3, au verset 13, Il dit, frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même, même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Un homme fait, il est celui, bien-aimé, qui regarde ce qui est devant et oublie ce qui est en arrière. C'est-à-dire, le jour de ma conversion, j'ai dit oui au Seigneur et non au monde. Quand j'ai dit non au monde, c'est tout ce que le monde peut m'apporter. Il y a des choses que le monde peut m'apporter qui sont agréables, bien bons. Donc c'est à nous de faire le tri, n'est-ce pas? De nous à faire le tri. Mais nous devons oublier donc tout ce qui est derrière et regarder seulement ce qui est devant, à l'exemple de l'apôtre Paul. L'homme fait, il sait ce qui est inutile. Il sait ce qui est inutile, voire même nuisible, de regarder en arrière. Quand tu as vomi, est-ce que tu as le courage de regarder le vomi? C'est dur de regarder encore le vomi. Hein? Je vois notre petite fille, donc elle vomit, elle va dans la toilette, elle vomit. Et puis elle commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle regarde le vomi. Elle pleure fort parce qu'elle regarde le vomi. Il dit, mais ça, on se pose la question, mais dans sa petite tête, il dit, mais tout ça, c'était dans mon ventre. On s'étonne, n'est-ce pas? Donc l'homme fait, bien-aimé, il dit qu'il est inutile, ou même voire nuisible, de regarder ce qui est en arrière. Parce qu'il a un objectif clair, un objectif bien défini. Sa passion est bien déterminée. Sa passion, c'est quoi? C'est de connaître, de connaître, de connaître encore, si je le répète encore plusieurs fois, davantage, Jésus-Christ, le cep, le vrai cep, l'amour divin, de le connaître encore et d'être semblable à qui? À lui. C'est ça notre but sur cette terre, d'être semblable à celui qui viendra nous chercher. Tous les hommes faits doivent cultiver. Nous qui sommes ici, hommes et femmes, parce que quand la Bible parle des hommes, c'est inclus aussi des femmes. C'est aussi, ça parle, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Donc quand il parle des hommes, c'est aussi, les femmes sont incluses dedans. Les hommes faits, ou alors si je peux, je ne peux pas ajouter sur la Bible, mais ça c'est moi, des femmes aussi faites. Donc nous devons cultiver cette pensée, parce que nous savons que n'ayant pas atteint la perfection sur ces terres, nous nous efforçons de saisir le Christ et Jésus. Pourquoi? Parce que Christ, lui, nous a saisis lors de notre conversion. Il est le premier à nous saisir la main. Il dit, viens et marche avec moi. Tu auras des épreuves, mais je suis avec toi. Je te conduirai, je te soutiendrai. Je ne t'oublierai jamais. Je suis toujours avec toi. Ça, c'est Christ. Donc, puisque Christ nous a saisis, nous, les hommes faits, ce sont des hommes qui saisissent aussi la main de Christ pour aller de l'avant. Nous tendons chacun et chacune, nous tendons à la maturité spirituelle. Nous tendons vers la sainteté, la perfection, parce que nous savons que nous sommes avec Christ. Et Christ est à la fin, parce que nous avons saisi sa main comme un enfant. Viens, reste avec moi. L'enfant marche, il n'aura pas de bobos, il ne va pas tomber, etc., etc. Donc nous aussi, nous sommes avec Christ. Donc le frère a donné l'exemple de Pierre ici. Pierre dans l'eau, et Pierre, etc. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais là aussi, donc, quand Pierre était attaché à Christ, il marchait comme si rien n'était. Mais quand il a commencé à regarder aux circonstances, etc., et boum, il est dedans. Donc, comme un enfant, s'il marche tout seul, il veut marcher tout seul, on le laisse, il tombe. Mais nous, avec Christ, nous allons de l'avant vers la maturité spirituelle. Parce que nous savons que ce que Christ veut pour chacun de nous, c'est la sainteté, et il veut que nous soyons irréprochables à la fin. C'est ça, Éphésiens 4, 13, ou alors Éphésiens 1, 4, pour ceux qui notent. Bien-aimés, mes frères et sœurs, nous sommes faibles, n'est-ce pas? Moi, le premier, je suis faible. Je suis faible. Confessons notre indignation à Dieu. Reconnaissons notre petitesse devant les grands dieux, devant Christ, devant le trône de Dieu trois fois saint. Reconnaissons que nous sommes faibles et nous avons besoin de lui pour aller de l'avant. Sans lui, nous ne pouvons rien. Comme Paul a dit, c'est celui qui nous fortifie au verset 13. Donc sans lui, nous ne pouvons rien. Parce que Dieu nous soutient dans sa main triomphante et nous délaissera jamais. Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance et de la vie. C'est l'espérance et de la gloire. Peuple de Dieu, Nous venons de chanter quel bonheur de marcher avec lui. C'est un bonheur éternel, n'est-ce pas, d'être avec Christ, qui nous conduira jusqu'au bout, parce qu'il y a des bonnes choses avec lui. Est-ce que ce bonheur de marcher avec lui, nous l'exprimons tous les jours dans notre vie, au quotidien? Vivre avec Christ, c'est quoi? Vivre avec Christ, c'est avoir une vie parfaite, totale, victorieuse. Vivre avec Christ, je suis dans le repos avec lui. Bien qu'on nous parle de repos, après avoir quitté cette terre, je suis dans le repos. Félicité éternelle, je me repose. Oui, mais aussi, quand nous sommes sur cette terre, nous pouvons aussi être dans le repos. Vivre avec Christ, et Christ est en nous. Donc nous avons aussi ce repos, bien-aimés. Nous avons la victoire. Nous voyons des victoires et victoires dans la vie de chacun et de chacune. C'est un bonheur, n'est-ce pas? Vivre avec Christ, c'est une communion dans l'amour et la sainteté du Père. Vivre en Christ, c'est une vie d'amour actif. Parce que j'ai Christ en moi et je m'exprime. Donc, ceux qui me voient, voient que Christ réellement vit en moi. Paul l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, vivre en Christ, c'est ça. Vivre en Christ, c'est une vie d'amour actif et cet amour efficace. Vivre en Christ, c'est une vie d'épanouissement spirituel et d'espérance merveilleuse. Oui, pour finir, je voulais lire avec vous 1 Jean 2, verset 28. Que nous dit ce texte? L'apôtre nous dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez encore, nous voyons ce verbe qui revient, demeurez en lui. Lui, c'est qui? C'est Christ. » Afin qu'au moment où il sera manifesté, ou lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'en son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Même si le monde me dit que « Éloigne-toi du Seigneur, mais c'est rien. » Mais parce qu'il m'a saisi, et j'ai saisi sa main, et je marche avec lui toute ma vie, je n'aurai jamais honte. Jamais honte. Quel privilège, quelle assurance. Oui. Dans cette attente réelle, spirituelle, de son retour, n'oublions pas que les conflits d'opinion, bien-aimés, ces conflits d'opinion, certaines incompréhensions entre frères et sœurs seront plus évidentes. Nous les constatons, bien que je viens de vous exhorter au travers de la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu qui dit que voilà, que préservons l'unité, etc. Et mon Dieu, donc ayons toujours de bonnes paroles les uns et les autres, respectons-nous les uns et les autres, mais n'oublions pas, dans cette attente spirituelle, parce que nous sommes encore sur cette terre, dans ce monde, il y aura toujours des indifférents, dans l'église, dans nos familles, au travail, partout. Il y en aura, hein, toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Restons vigilants, restons éveillés, édifions-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres, car seuls ceux et ceux qui s'attacheront à Christ pourront vaincre les obus lancés par le diable. Et ces obus sont partout, hein. Ils pleuvent aujourd'hui de partout, dans les réseaux sociaux, à la télévision, partout, nous entendons des choses inabominables. Entre parenthèses, hier j'entendais, en revenant du travail, dans la voiture, j'attendais qu'un jeune de 18 ans ait été tué. Il a été tué, pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur de 62 ans qui est venu, qui voulait contester la facture. Et puis, bon, ben, ça tournait un peu, comme on dit, ça tournait mal. Il a pris le couteau, donc c'était déjà prémédité. Ça, c'est ce que je pense, parce que tu ne peux pas amener un couteau à aller avec. Il a pris le couteau, poignardé le jeune, donc... Il a poignardé et le jeune est mort. C'est lui qui est venu pour s'interposer, un jeune aussi, comme lui. Il a reçu aussi un couteau et sa vie est en danger. Donc, vous voyez que le mal prolifère. Les indifférents sont toujours là. Donc, restons vigilants, vigilants. Attachons-nous à Christ qui nous dit « Ne craignez rien, je suis avec vous tous les jours ». Ce que Dieu m'a donné de partager avec vous, ces différentes exhortations pour l'avancement de l'Église et pour aussi notre avancement spirituel. Bénissons les seigneurs pour tout cela. Et puis, restons reconnaissants pour ce que Dieu fait au sein de notre Église. Dieu aime cette Église. Il nous a envoyé des pasteurs, des enseignants, des docteurs, Nous avons connu le pasteur Billy, maintenant nous avons le pasteur Serge. Alors, soyons la couronne et la joie de ses serviteurs. Nous avons été avec le pasteur Billy. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Serge avec nous. Comme ce verset qui vient de le dire. Donc, est-ce que l'église de Créteil est la couronne et la joie du pasteur Serge Oulay? Oui, je pense que nous le sommes. Et nous devons persévérer dans cette voie, aller de l'avant. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Attachons-nous, mes bien-aimés, attachons-nous au vrai cèpe, s'il vous plaît. Abandonner les cèpes, c'est mourir spirituellement. Et Dieu ne veut pas que nous mourons spirituellement. Il veut que nous tenons, nous allons de l'avant. C'est pourquoi il a tant aimé le monde qu'il a donné Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Père, tu nous aimes tant. Tu aimes cette Église, tu chéris cette Église. Gloire à ton Saint-Nom. Nous t'avons entendu. Cette parole a sonné dans nos cœurs, dans nos oreilles. Seigneur, fais-nous grâce. Aux différentes de toutes ces exhortations, accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher de l'avant, de s'attacher surtout à toi, Jésus-Christ, le cep de notre vie. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Nous n'avons pas les mots à dire. Je vais seulement demander à ton Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, de nous aider d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen.